Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors dans cette touffeur toulousaine, je vais vous parler aujourd'hui de deux poètes. La première, il s'agit de Samira Negrouche. Samira Negrouche, qui est maître ex-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Donc, une de nos consoeurs ici à Toulouse, et qui a écrit avec son ami Marin Fouquet un superbe poème qui pourrait tout à fait être un long poème radiophonique, comme je les adore, ces textes-là, et publié aux éditions Actes Sud, ayant pour titre « Pente raide ». Alors, d'abord, Samira Negrouche. Samira Negrouche, c'est cette génération qui est née en 1980, donc elle parle, et vous allez l'écouter, elle parle bien entendu de ce qui s'est passé dans les années 90, cette guerre civile effroyable qu'a connue l'Algérie, qui a fait 100 000 morts. Mais elle avait 10 ans à cette époque. Moi, je me souviens de Abdelmadjid Kawa, que nous avons reçu très souvent pendant cette période des années 90, la fin de ces années 90, où Kawa venait très souvent ici dans cette radio, nous parler de sa création poétique, de l'anthologie des poètes algériens d'expression française, etc. Elle n'avait que 10 ans à cette époque-là, une dizaine d'années. Donc elle a d'abord été médecin, Samira Negrouche, avant de se consacrer totalement à l'écriture et à la traduction. Alors, son œuvre est abondante, on en a parlé ici. En particulier, on a cité son anthologie poétique qui reprend les textes, 20 ans de textes, hein, de 2001 à 2021, qui a pour titre « J'habite en mouvement » et qui avait été publié notamment aux éditions Barzac. Et Samira Negrouche, donc, qui n'a pas arrêté de publier et de publier ses créations donc, depuis cette période de 2000, a été nommée Chevalière des Arts et des Lettres en 2024 et elle a le bonheur d'être traduite dans le monde entier. Alors, avec Marin Fouquet, lui, il est encore plus jeune, puisque lui, il est né pendant cette période noire d'Algérie. Il est né en 1991. Il est né, lui, en Seine-et-Marne, Marin Fouquet. Alors, c'est un romancier, c'est un poète, c'est un performeur aussi. On le retrouve d'ailleurs, ce côté performeur, dans toute sa création de ce livre, donc à deux voix, « Pente raide », publié à Actes Sud. Et il a été pensionnaire de la Villa Médicis l'année 2025-2026. Et il est l'auteur de deux romans, qui ont été des romans très remarqués, 77, c'est le titre du premier roman, et GAV, ces deux romans parus également chez Actes Sud. Ainsi, il est l'auteur aussi d'un récit qui s'appelle « À la terre », qui a été publié par 21 bis. Voilà. Alors, ces deux personnages littéraires se retrouvent pour composer ce merveilleux long poème radiophonique, donc à deux voix, qui se répondent, mais où on va trouver, bien qu'il y ait bien entendu, on puisse discerner qui écrit, de quelle voix il s'agit quand c'est Marin Fouquet ou quand c'est Samira Negrouche, mais il n'en demeure pas moins, c'est là vraiment que l'on voit le talent littéraire de ces deux auteurs, c'est qu'il y a là quelque chose d'extrêmement unitaire. ils ont réussi à créer une unité de ton, malgré tout, ce qui est très difficile hein, pour deux poètes aussi quand même dissemblables. L'un qui est né dans la banlieue parisienne, l'autre qui est né dans le soleil de l'Algérie. Voilà. Alors, ils vont écrire tous les deux ce livre, donc Panteraide, dont je vous dis que c'est pour moi le prototype même d'un poème radiophonique, et je voudrais pouvoir avoir un jour peut-être la possibilité de le donner en entier, ce poème, parce que vraiment c'est tout à fait le genre de texte dont raffole la radio. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'Algérie et la France ont des rapports quelque peu troubles. Et nous dit l'éditeur, dans sa quatrième de couverture, un soleil écrasant, une rue en pente au cœur d'une ville méditerranéenne. Deux corps vont à la rencontre l'un de l'autre. Lui a son couteau dans la poche et le silence pour bagage. À elle, le poids de l'histoire et une parole à faire entendre. Elle, c'est Samira. Lui, marin. Et, puisqu'ils vont bientôt se rencontrer, puisqu'ils vont devoir se parler, on doit aussi nommer le pays. L'Algérie et la France. Alors voilà. Il y a une pente, le soleil, la mer, et, d'une rive à l'autre, des questionnements incessants, des violences à disséquer, un passé qui n'en finit jamais, le coup du pardon et celui de la culpabilité. Oui, il y a tout ce qu'on peut essayer de dire et d'écouter. Avec Panteraide, Marin Fouquet et Samira Negrouche osent un dialogue escarpé dans lequel se percutent les préjugés et les possibles, les espoirs et les malentendus, les non-dits et la colère. Ils composent ensemble une partition à deux voix urgente, franche, courageuse, nécessaire. Un trait d'union entre nos deux pays. Voilà. Alors il faut saluer quand même cette démarche, qui est une démarche remarquable. Saluer également l'éditeur qui a mis en rapport donc ces deux auteurs, Marin Fouquet et Samira Negrouche, sur un sujet effectivement urgent, un sujet aussi difficile que cette entente difficile entre l'Algérie et la France. Alors on va retrouver bien sûr chez Samira Negrouche cette culture camusienne. Elle va parler bien sûr de Camus, puisque l'Algérie c'est avant tout le pays de Camus, le pays où se situe ce roman qui est le roman peut-être le plus significatif de ce rapport entre le peuple algérien et le peuple français avec l'étranger. Ce roman qui est toujours une énigme de ce meurtre de l'Algérien par l'Européen, et puis cette suite qui avait été donnée également par un auteur algérien au livre de Camus. Actuellement, ce livre est indispensable parce que plus le temps passe, plus le malentendu s'installe, et plus le malentendu s'installe, plus la caricature s'empare de cette situation. Justement, c'est ce qu'elle dit, Samira. Écoutons-la. La caricature, Je ne veux pas que l'Algérie soit une caricature pour quiconque. Nous l'avons payée assez cher. Et Zora Drif aussi l'a dit. Elle a tué des Européens, oui, elle a posé des bombes. Et l'enfant a perdu ses jambes, et l'enfant a demandé des comptes. À Marseille, 50 ans après, l'enfant a demandé pourquoi. Et Zora l'a su. Mais elle dit qu'on n'avait pas d'autre choix, que nous autres Arabes, on ne nous entend pas. Même dans cette langue qu'on a payée cher, très cher, on ne nous entend pas. Et quand on parle trop fort, on nous entend encore moins. Et quand on parle bien, on n'est pas des vrais Arabes. Et quand on est en colère, on n'a plus le droit de citer. Le cycle de la violence, disait Albert, il a raison, on n'en sort pas. Il n'y a pas de violence légitime, on n'en sort pas. Mais Zora et Djamila et Louisette et les autres, elles auraient répété avec Margaret Atwood, la guerre est ce qui arrive quand la langue échoue. Balle au centre. Une boule en cogne une autre. Dis-moi, ce que nous faisons pour que la langue cesse d'échouer. Personne ne vit véritablement avec cette violence. Tout le monde échoue. On vocifère, on gueule, on se tait. C'est la colère entrée et la honte qui tiraille. Je sais très bien qui parle dans ma langue. Je les prends toutes. Et Kateb Yassine savait, et Assia Djeba savait, et Mohamed Dib savait. Faudrait les lire un peu et cesser de demander aux Algériens pourquoi. Ils ont payé assez cher le « pourquoi ». Et je refuse de répondre à la question « rien, nada, ketchi, walou, que dalle ». Laisse-moi passer ma langue de velours dans ta crinière de clébard. Et laisse-moi te dire que les chiens sont plus nobles que nous. Ce truc chaud que tu vois, il descend de la montagne. Et puis il s'enfonce dans la mer et les morts par centaines, par milliers, par paquets. Je connais, moi, hélas, je connais. Et je ne veux pas que tu connaisses. Ça me reste dans le ventre, dans le nez, et ça grouille dans les sédiments. Alors, les autres morts ailleurs sur la terre, et les autres morts ailleurs dans l'histoire, je les vois, crois-moi, je les vois. Et dans le silence de ton grand-père aussi, je les vois. Et dans la cigarette que tu fumes avec le père de passage, je les vois aussi. Ça éclabousse toute cette colère. Et j'aimerais te dire qu'elle ne m'appartient pas. J'ai marché sur la Sainte Victoire et à la Sainte Baume, et dans le Vercors, j'ai marché, j'y peux rien, je grimpe partout. Mes ancêtres sont de la mer, la montagne est leur résistance, alors je grimpe à me couper le souffle. C'est ainsi que je me décrasse. Je grimpe à me racler les plantes. C'est ainsi que je dénoue ma gorge. Et de là-haut, je vois la mer. Je sais quel cimetière elle est devenue. De là-haut, je la touche des doigts. Ces vagues me sont un alphabet. Je suis une enfant de la mer. Je sais qu'on ne la domestique pas. Je grimpe dans les creux, sur les plateaux, et c'est faussement paisible. L'immeuble pont, sa perspective, les villes qui grimpent et qui plongent dans le bleu, la splendeur à couper le souffle, c'est faussement paisible. Ça fait mal, si tu savais, de ne pas être à la hauteur. Une aquarelle de Cézanne, c'est faussement paisible. Ça parle aux sédiments des montagnes, comme les pommes parlent aux oranges, comme son jazz de bouffon me parle des racines. Au jazz, je suis allé. J'ai rencontré des langues, une tchakouta internationale, comme je les aime, une ratatouille, une allemande m'a parlé du pommier de sa mère, un italien de la Sicile, nous avons parlé en français, mais le Vietnam était là, et le Japon aussi. Il y avait des femmes de Tlemcen, des Aurès et de Guinée. Une autre m'a dit, à Tahiti, on parle comme ça, c'est ça notre français. Et ça m'a fait penser au pizzaiolo d'Alger qui a répondu à une chaîne d'infos de la péninsule. C'est ça notre arabe. Et puis quelqu'un m'a parlé de la distance d'amour. J'avoue que je cherche encore à comprendre les sédiments de cette distance. La distance qui permet l'amour. Sur les pentes d'Aix, des enfants m'ont parlé arabe, un peu nerveusement. Et puis, quand j'ai répondu, ils ont ri, un peu gênés, beaucoup émus. Ils étaient turbulents, ils parlaient fort, mais c'était paisible, vraiment paisible. L'un d'eux m'a raconté un rêve. Un pigeon passait dans le ciel avec, dans son bec, un drapeau d'Algérie. Tout cela n'est pas contradictoire. Non, faut cesser de voir des contradictions partout. Ils m'ont dit non, on ne va pas au centre, ça va pas, madame. Et ça ne voulait pas dire non, je sais. Ça ne voulait pas seulement dire non. Ça veut dire ça se construit la confiance. Sortir de l'affrontement, ça se construit. À Aix, j'ai entendu parler allemand et anglais. J'ai entendu des langues slaves et des langues nordiques. J'ai entendu italien souvent et espagnol, brésilien aussi. J'ai trouvé la lingua. Sur les aventures des boutiques, des bouches pleines, des bouches folles, et j'ai lu des vœux de Noël en provençal. J'ai entendu corse et j'ai entendu d'autres langues, et chacune et chacun m'ont raconté des histoires peu banales sur les langues parlées et les langues perdues, celles qu'on apprend et celles qu'on fuit. On m'a dit, tu sais, certains mots ne se traduisent pas. Je sais, les sédiments des mots, ça ne se traduit pas. C'est un ailleurs dans lequel on plonge sans protection. Et il faut plonger quand l'ailleurs est entortillé en soi. Sinon, c'est soi qui devient imprononçable. Amechoucha, m'a dit la corse de l'hôtel, à ma petite fille, à ma chérie, tu vois, ça ne se traduit pas. Et ça va très loin dans le cœur, ça va très loin dans le corps. C'est sismique la langue, ça dit beaucoup, c'est un tableau vivant. L'autre m'a dit, moi, je ne parle pas alsacien. Ce qui me bouleverse, c'est l'accent de chez moi. Et l'accent, c'est beaucoup de la frontière. Au musée, on m'a dit, tu sais, on est né ici, mais on ne passe pas les remparts. Et je les ai entendus. Je les ai entendus, j'ai entendu leur langue rentrer, et je me suis rappelé cette chanson Chaoui. Si tu veux vraiment m'aimer, elle le dit bien sûr en arabe. Alors, j'aurais pu parler de la tavola, de la table qui vient de l'arabe. J'aurais pu dire cette gentille proximité de vivre ensemble. Mais je t'entends, moi, quand tu me dis qu'on a maltraité le vivre ensemble, qu'on vous a bassiné, escroqué, que vous avez vos fainéants et vos lâches, comme on a nos fainéants et nos lâches. Je les vois, ces eaux stagnantes qui stagnent et qui ne savent rien de l'Andalousie. Ces eaux stagnantes qui ne savent pas ce qu'est le véritable échec, l'échec de tous, et qui rêve d'une Isabelle et de sa reconquête. La colère m'éclabousse et je ne m'en lave pas les mains, parce que moi, l'Andalousie, j'y crois encore. Le vivre ensemble, j'y crois. Je n'ai pas pour les fainéants. Ce n'est pas pour les lâches. Faut sauter sans protection. C'est pas avec les mots faussement doux que ça se désamorce. Et pourtant, comme je les aime, ces aquarelles de Cézanne, si tu savais, comme j'ai besoin d'un temps paisible. Mais cette colère ne m'est pas étrangère, ni cette autre déflagration dans la langue. Je ne m'en lave pas les mains. Pourtant, de quoi je me mêle? Non, ils ne se débrouilleront pas entre eux. Tout ça, c'est pas silence et clash. C'est encore bien plus entortillé que ce qu'on pense. Si tu veux vraiment m'aimer, le pardon s'apaise des kilomètres de langues chargées, des sédiments de langues éteintes. Tu devras les entendre toutes. Si tu veux poser un genou à terre, cherche d'abord la distance d'amour. Ça pèse combien le vivre ensemble? Ça pèse combien les colères entrées? Profondes les colères, comme nos encolures. Tu ne sauras jamais ma parole. Faut avancer. Quelques mètres, attends, quelques mètres, quelques bras, attends. Qui est pas encore. J'y vois plus rien. Cherche à tâtons. Je sais pas non plus. Cherche. Et maintenant, le poème se poursuit avec Marin Fouquet. Alors, Albert a tué l'arabe. Et l'arabe n'avait pas de prénom. Et comme l'arabe était trop gentil, il n'a pas su quoi répondre. Et si Roberto avait mal au dos, c'est qu'on lui avait tranché la lettre, et quand la bombe de Zora a défragmenté les corps d'une grande bourrasque, tous les corps, c'est qu'on ne voulait plus l'entendre, c'est qu'il n'y avait plus rien à se dire, c'est que la langue était partie à la mer, sans faire son travail, ok? Et avec ça, il faudrait qu'on ravale. C'est mort. L'histoire ancienne. Tous nos vieux la pleurent, des deux côtés de la rive. Chaque soir, en cachette. Les vieux font toujours ça en cachette. C'est une affaire de pli. Et si on écoute assez, si on tend suffisamment l'oreille, ça fait comme des chuchots fatigués, des hoquets étouffés, des sanglots étranglés, des gargouillis de fond marin que chacun se réprime. Et quand l'un fume sa clope, l'autre mate le plafond. Et quand l'un porte la cicatrice, l'autre contient l'empreinte. Des deux côtés, ça chiale, et le fil est coupé, et la plaie a l'air libre. C'est une plaie fistuleuse, une plaie purulente, que plus rien ne referme, ni la mer, ni les mots, ni le temps. Ni les vagues et la mer est cruelle. Cruelle. Comme quand vient le soir et que la famille se quitte. Que l'on a mis son manteau et que les insultes se taisent. Toutes les chaises ont valsé. Tout le sang a coulé. Et si chacun reste en boule des deux côtés de la table, c'est qu'il n'y a plus rien à se dire, rien, rien, que les chuchots fatigués, les hoquets étouffés, les sanglots étranglés qui résonnent dans l'appart comme des cris ravalés dans un fond de piscine. Voilà. Le soleil est tombé. Il flirtait depuis trop longtemps avec sa limite. Moi, j'ai grimpé comme je pouvais. J'ai grimpé dans la pente. Je pensais qu'elle m'apaiserait. Tu sais, je croyais à l'effort, la vérité de l'effort. Mais une fois tout en haut, je me suis rendu compte que le plus dur restait encore à venir. La descente. Oui, j'ai vu des ombres s'allonger dans la descente. D'abord, celle des bagnoles. Elle jouait à chat avec les fissures et puis celle des arbres. Leurs racines les ardant le bitume. Alors j'aurais juré sur tout ce que j'ai de plus cher. Que les ombres changer peu à peu de stature, des cicatrices devenant brèches, devenant fentes, devenant failles. C'est ça, des failles, comme les rides sur les visages des hommes. L'un avait d'ailleurs perdu la partie, parce que il en faut au moins. Et quand il s'est levé, ses épaules semblaient libres. Des failles sur les visages des femmes aussi. Elles revenaient de la fac. Penchées qu'elles étaient vers l'avant, elles avançaient par groupes de 4, 5, 6, et leurs pieds raclaient le sol parce que le savoir pèse une tonne. Et même aux courageuses. Il y avait du rail aussi, du rail s'échappant des fenêtres. Et à mesure qu'on les fermait une à une, les voix semblaient soudain plus basses, plus rondes, comme un truc qui parlerait du crépuscule. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit que le soleil, ce foutu soleil qui nous fout la misère, ce foutu soleil qui nous tabasse la gueule, ce foutu soleil qui cogne sur tout le monde et sans nulle distinction, aussi vrai qu'il nous a tapé dessus toute la journée, sur nos peaux et nos nerfs. Le soleil a bon dos, tu sais. J'en ai connu des journées sans soleil. À l'époque, on a grandi. On ne traîne plus dans les champs. On a perdu le goût des bonbons et on n'est plus des mômes. Alors, on bosse à l'entrepôt. L'entrepôt, c'est sur la ZAC, tout au bout de la ZAC. On attend dans le froid, avec les collègues. Un moment, la porte s'ouvre et les néons nous guident dans des allées de marchandises où nos corps rôdent. Les collègues, ils s'appellent peut-être Idir, s'appellent peut-être Michel, s'appellent peut-être Yacine, je ne sais pas. Ils viennent certainement des cités, peut-être du village ou bien des pavillons. Je ne sais pas non plus. En fait, on n'a pas le droit de se parler. C'est la règle. Interdit par la direction, ils disent. Question de productivité, ils rajoutent. Et c'est une règle sale. Alors, on avance comme ça, en silence, sans jamais rien se dire, et dans le fond, on s'en fout. Tu sais, on n'a pas besoin de se connaître le prénom ou l'origine quand on partage la galère. Ça, je me souviens de l'entrepôt. Même qu'à ce rythme, on y rôderait encore, mais un jour, la ZAC ferme. C'est idiot. C'est comme ça. Il faut alors monter sur Paris, la ville qui fait peur. Mais on n'a pas le choix. Donc on s'accroche. On s'accroche à l'arrière d'une benne et, planant à quelques centimètres du sol, sautant du marchepied, on atterrit bientôt sur le bitume. Le bitume de la ville qui fait peur, pour vider ses poubelles. Non, je n'oublierai jamais toutes ces merdes entassées, toutes ces merdes empilées, toutes ces merdes à pousser, et l'odeur. Mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment pas ça le pire. Non, le pire, c'est le bordel. Le bordel mécanique, le bordel de la benne, le bordel de la ville. Mais si on écoute assez, avec l'habitude, si on tend suffisamment l'oreille, on peut parfois entendre des cris. Ils viennent de République. Et si on tourne la tête, on peut apercevoir des manifestants. Ils remontent la rue, ils remontent le boulevard, ils crient leur colère, pendant que nous, on vide. C'est idiot. C'est comme ça. Et quand la journée est finie, quand les cris se taisent et quand la ville s'endort, quand le ciel au loin revêt ses teintes de guimauve, c'est mon moment préféré. La ville devient nôtre. Notre à nous, nous, ces princes, princes de la ville, en voilà une belle récompense. Et on sourirait presque si on n'était pas autant crevé sur le chemin du retour. Alors, dans l'habitacle, moi, je dodeline de la tête pendant que les collègues causent. Il cause du pays. C'est la fatigue qui fait ça, tu sais, causer du pays. Ils disent toujours le pays, ou ils disent le bled. Mais dans le fond, c'est pareil. Et les collègues, ils s'appellent Yacine, s'appellent Rachid, s'appellent Michal, Makara ou Samba, et ils disent tous le pays ou le bled. Comme si c'était le même pays, le même bled. Ou plutôt, comme si ça voulait juste dire « pas ce pays-là, pas ce pays où l'on crève, pas ce pays que l'on vide et où l'on bute son corps à rebours du soleil. Mince, la nuit est tombée, il commence à faire froid. » On se serre alors les uns contre les autres dans l'habitacle et, comme les mots se font rares, le chauffeur met de la musique. Il monte le son. On écoute Ta, on écoute Azni, on écoute Keta et tous ceux qui sont partis avant nous pour trouver les bons mots de l'exil. Alors moi, assis sur la banquette, somnolent, entre Yacine et Michal, je me demande si je n'ai pas porté toute ma vie et tout au fond de moi un petit bout de ce bled. Je n'ai pas la réponse. Et je sens ma tête qui s'affaisse quand mon corps s'enroule. C'est la faute à la fatigue, ça. C'est la faute au périph. C'est la faute à la lune. La faute est partagée. Et je demande, ça coûte combien le vivre ensemble? Et je réponds, ça coûte un bras. Un bras coincé sous une avalanche de merde. Un bras pris sous une montagne de corps. Un bras mastiqué par une benne qui digère la ville. Un bras broyé par la bêtise et les bombes, parce qu'il y a ceux qui s'abritent dans le parasol et ceux qui rôdent sous les néons, comme il y a ceux qui graillent et ceux qui vident. C'est une histoire de pente, c'est une histoire de faille, c'est une histoire de fou. Et ceux qui sont là-haut, bien assis tout en haut de la montagne de corps, quand ils disent « vivre ensemble », quand ils combinent ces deux mots-là dans leur bouche, en se raclant bien le palais, les fins gourmets de la langue, quand ils font tournoyer en volute ces deux mots-là dans leur bouche, juste pour voir si ça sonne, ils ne veulent pas dire « vive avec », non, mais plutôt « vivre à sa place ». Ça veut dire « chacun ». À sa place. Donc, ma tête à l'air libre et mes épaules relâchées. Donc, mes jambes sans tension et mes pieds bien ancrés. Donc, mes pieds sur tes épaules et tes épaules courbées. Donc, tes mains dans le dos et ton dos contre le mur. Mais surtout, surtout, « ferme ta gueule » en français dans le texte, parce que c'est ça, le vivre ensemble. Alors, si les gosses de l'arabe de tous les bleds du monde, si les gosses de l'arabe avaient continué de faire comme l'arabe, c'est-à-dire de bien fermer leur gueule et de courber les chines, de bien s'hypertrophier les dorsaux et de s'enrouler les épaules pour vider les poubelles. Oui, si les gosses de l'arabe avaient oublié le soleil et accepté les néons, ils n'auraient jamais parlé de vivre ensemble. C'est pas leur problème, parce que leur vrai problème, c'est quand les gosses de l'arabe qui sont nés ici, les gosses de l'arabe de tous les pays du monde, exigent leur part de ville, mais pas la part maudite, ça non, pas la part de nuit, et qui ne chuchotent plus, et qui ne pleurent plus, et qui ne sanglotent plus, et qui n'acceptent plus de fixer le sol, et qu'ils gueulent, et qu'ils brillent, et qu'ils râlent, et qu'ils veulent à leur tour que ça graille, et qu'on leur sorte les poubelles. Moi aussi, je veux enfin regarder le soleil et n'avoir que lui à haïr. C'est peut-être ça que disent les gosses de l'arabe dans toutes les langues du monde. Ils ont bien raison. C'est bien là tout un problème, alors, si je sors mon poing de ma poche, comme ça. Et si je déplie mon coude pour faire courir mon ombre, et si j'ouvre la main pour que mon schlass, qu'on appelle silence, tombe pour dévaler la pente en un tintement mélodique de métal qui le plonge à la mer, je veux dire, si l'on doit parler d'amour, ça se fera dans les éboulis, je crois, dans une langue d'éboulis, comme le bruissement d'une main cherchant sous les gravats, comme le raclement d'une pomme fouillant dans les décombres, ou comme le frémissement de doigts s'extirpant d'une montagne, ou comme le craquement de phalanges qui, passant sous l'amas de peau et glissant sous les jambes et rentrant dans les plis, se frayant un chemin, deviendrait un truc grouillant d'embranchement et de nerfs, une boule vibrante de tendons et de chair, avec des bras comme des nœuds, des coudes comme des ponts, des ligaments comme des câbles. C'est ça, une boule vibrante qui dézinguerait tout sur son passage et s'enroulerait furieusement en dévalant la rue, en dévorant la pente, en détruisant la ville, en avalant la nuit. Je te vois, et alors ? C'est faussement neutre. Et c'est Samira, donc, qui reprend. Le clocher sonne. Je le vois de ma fenêtre. Il ne sonne pas l'heure ni la demi, mais toujours quelques minutes avant. Pour appeler les fidèles, dit le prêtre. C'est bien original, le mistral me glace les narines. L'église Saint-Jean de Malte fait l'appel. Et les volatiles noirs protestent à ma fenêtre. Va savoir pourquoi. Peut-être de mon ignorance à les reconnaître. Et le clocher sonne avant l'heure. Me ramène à la Valette. À l'obscurité, à la lumière, dans les toiles du Caravage. À mes voisins d'hôtel qui m'ont questionné sur l'Algérie. Au taxi, qui m'a ramené à la gare avant l'aube, en me disant « C'est triste, cette séparation. Vous savez, mes parents sont dorants. » Avant de largement réduire le prix de la course, l'Algérie dans les yeux des gens, ça dit encore beaucoup, même pour ceux qui n'y ont jamais vécu. Souvent, leurs yeux disent beaucoup, mais leurs lèvres s'irisquent à peine. Je te l'ai déjà dit, l'arabe n'est pas gentil. Il y a longtemps qu'il digère sa colère. Et s'il paraît un peu mou à offrir des bonbons, c'est qu'il parle à ses drames une génération à la fois. Et quand on se réveille sur ses malheurs, qu'on veut lui demander pardon, on continue à le regarder de haut et à lui dire comment il doit crier fort, si c'est trop fort ou pas assez. Lui qui a vu le mec qui a tiré semblant de rien, lui qui avait aussi le soleil dans les yeux, le soleil aveugle, il se lève l'arabe. Il ne veut plus être la victime de personne, plus envie qu'aucune langue n'entrave ses lèvres, fût-elle celle du tortionnaire. Il ne veut pas l'arabe, qui est arabe et autre chose, que sa force de vie soit anesthésiée, paralysée, quand il rêve d'horizon, à sa façon, avec toi. Il veut donner un coup de schlass, que ce coup soit le dernier. Il sait très bien, lui, pourquoi il a longtemps ravalé sa langue, ravalé sa colère. Il sait pourquoi il faut débusquer tous ceux qui décapitent sa langue, mais aussi ceux qui ont de bonnes intentions, des culpabilités affolées, le soleil. Dans tout ça, il a bon dos. Chez nous, il ne parle presque pas de Dolce Vita, mais d'herbes brûlées, de destins asséchés. Il parle des démons qui s'additionnent, des luttes qui s'effondrent, du cœur qui en a trop sur le cœur et qui déserte son torse. Le soleil, c'est tous les matins la claque du destin qui tarde, quand le soleil cogne, c'est la misère, une autre misère qui s'abat. Elle est plus difficile à voir pour qui vient d'ailleurs, qui vient du nord. Ça coûte un bras le vivre ensemble, je te crois. Ça coûte au moins les viscères sur la table. Je les ai vus, ces viscères, sous les néons des sous-sols. Ça brûle encore, des narines jusqu'au nerf du rachis. Ça brûle cette généalogie, cette géologie de l'écrasement. Le vivre ensemble, si tu n'y arrives pas, faut y retourner encore. Ça ne disparaît pas comme ça, tu vois. Ça brûle encore, t'as beau raser les prénoms, expulser l'histoire, plus violente. Elle se réveille à l'autre bout du globe. Tout cela qui coule entre nous, dans le souterrain, ça parle, ça déborde. Que le fleuve traverse la ville ou qu'il irrigue ses termes, la mer se soulève, l'eau entre nous, partout, bouillonne. Quand une artiste martiniquaise me dit que la beauté de Paris la rend furieuse, je comprends pourquoi elle est furieuse et pourquoi je ne le suis plus. Toute la place est pour la beauté, disait René Char. Je l'ai payée cher, mais je la réclame. Et pourtant, je marche en bord de Seine le long du Rhône et je pense aux Algériens noyés, je ne les j'oublie pas, les ponts défilent, je pense à leur tenue du dimanche, les ponts défilent, je pense à leur désir de vie entière, je pense à leur dignité farouche et je suis encore en deuil. Je suis l'enfant de ma terre, je suis l'enfant du monde. Mon universalité n'est pas une coquetterie, elle est née de l'écartèlement. Je prends la beauté de Paris et la lumière de Provence, que la faille profonde m'abreuve, que la greffe imposée, forcée, n'entrave pas nos voies. Je comprends que tu cognes dans ta langue, dans la généalogie des renoncements, je cogne à mon tour sur les angles trop droits, les certitudes factices. L'écartèlement est ma langue. Je l'ai reçu en héritage, avec leur fureur, avec leur colère. Tous ces récits m'appartiennent. Les volatiles noirs à ma fenêtre n'annoncent aucun malheur. Ils me parlent des yeux hagards, des plafonds humides, de tous ces récits étouffés dans les granges et les greniers, des désirs qui meurent entre nos deux rives malmenées. Ils me disent, des oiseaux de mauvais augure, qui détournent nos silences pour en faire une caricature. Ça coûte cher le vivre ensemble. Les viscères sur la table, il faut vider son sac et toutes les poubelles. Il faut désamorcer tous les discours, poser un genou à terre, c'est détricoter les machines de guerre, les machines de l'humiliation. Nous n'avons pas fait la guerre, mais elle nous a fait. Nous sommes ses enfants, c'est en nous qu'elle se réveille. Quand la guerre explose ailleurs et qu'elle nous rappelle à l'ordre, alors oui, se regarder en face, sortir de la confrontation, alors oui, faire un monde où le dos de Roberto vaut le dos de Jamel, vaut le dos de Michel, vaut le dos et le corps et le cœur et la vie de tout un chacun. Mais avant, le bourreau et la victime, celui qui a jeté la bombe et celui qui a éventré la femme, mais avant, disséquer les silences, décortiquer les systèmes de la soumission. Il y en a qui ont peur de la colonisation, tu sais. Dès que le mot colonie apparaît quelque part, leurs orteils se figent dans leurs chaussures. D'un bout à l'autre de la rue, c'est pétrifié, mais eux ne déclarent pas leurs orteils figés, ils font mine de rien. Macam, Walou, normal, avance. Ils ne comprennent pas, eux, que le coup de chlasse nous libérera tous, qu'il faut poser des mots sur le système colonial pour enfin en sortir, que la décolonisation et l'indépendance, c'est couche après couche, c'est comme le vivre ensemble, tu y retournes et tu recommences, c'est génération après génération, et tu cognes sur tes certitudes et sur tes ignorances, ça passe par de nouvelles colères et par des martiniquais furieux, parce que on voudrait que la beauté vienne avec la justice. La beauté et la justice, pour toutes, pour tous. Tu dois comprendre à quel endroit le système colonial continue à nous empoisonner. 62 ans après l'indépendance, tu dois comprendre à quel endroit le système colonial continue à vous empoisonner. 62 ans après 62, à quel point ça m'empêche, à quel point ça t'empêche, à quel point ça les empêche. C'est ce marécage-là qui nous lie et qui nous empêche, pareil. Et ce n'est pas en balayant le vivre ensemble qui brûle que ça arrêtera de bouillonner. Je m'arrête là. Voilà. Pente raide de Marin Fouquet et Samira Negrouche. Alors elle termine en disant à quel point ça m'empêche, et je ne peux pas m'empêcher de faire cette réflexion. Le père d'Albert Camus, qui avait fait la guerre de 14, disait aux soldats qu'il avait vu martyriser des prisonniers allemands, le père de Camus, le père d'Albert Camus, disait, un homme, ça s'empêche. un homme, ça s'empêche.
À lire absolument Panthéride de Marin Fouquet et Samira Negrous aux éditions Actes Sud, poème radiophonique magnifique, qui vous coûtera 16 euros ce livre. À lire absolument. Ainsi s'achève des poètes, Claude et moi. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine, à 17h.